Les Années-Lumière, édition du 24 janvier 2009. Pourquoi la science et la technique sont-elles incapables de venir à bout des bombes artisanales en Afghanistan ? Bonjour, ici Yannick Villedieu, l'équipe. Bienvenue à cette nouvelle édition du magazine d'actualité et de culture scientifique de la première chaîne de Radio-Canada. Cette édition, elle commence avec notre œil sur Haïti. Bien sûr, Haïti, où il va falloir reconstruire, Sophie-André Blondin.
Reconstruire mieux, reconstruire plus solide, c'est possible et ce n'est pas toujours hors de prix. On visite un laboratoire où des solutions sont mises à l'épreuve.
De votre côté, Chantal Srivastava, vous êtes intéressée à ce qu'on pourrait appeler la science du secours.
Plus précisément, à la logistique des interventions humanitaires en situation de crise, nous verrons comment la science pourrait aider. Et au courrier des Années-Lumière, une auditrice se demande ce qu'il est advenu de la fameuse méthode vanne de prévision des séismes développée en Grèce au début des années 80.
Et nous terminerons la première heure avec la chronique des Années-Lumière. Cette semaine, Rachel Légère du Biodôme de Montréal nous parle biodiversité, génétique et classification des espèces. C'est pas si simple que ça. Deuxième heure, Marie-France Bélanger, vous nous emmenez en Afghanistan pour nous parler de bombes artisanales et de technologies.
Oui, ennemi numéro un des militaires canadiens, les bombes artisanales posent un défi technique et scientifique encore bien loin d'être résolu.
Je vous parlerai ensuite de la fameuse bactérie Clostridium difficile. Des chercheurs américains développent une nouvelle forme de traitement contre cette infection toujours présente dans nos hôpitaux. Et pour finir, Sophie-André Blondin, vous recevrez l'auteur de la semaine.
François Huot, géologue, signe la baie de James des uns et des autres, ayez Ichu.
Mais pour commencer, cap sur Haïti. Alors, c'est demain que va se tenir à Montréal la première réunion internationale pour planifier la reconstruction d'Haïti. Il sera bien sûr question du financement de cette reconstruction, mais il ne faut pas oublier aussi les modes de construction. Les architectes, les ingénieurs, les chercheurs ont déjà identifié certains problèmes de construction qui ont contribué à alourdir le bilan des victimes du séisme. Ils connaissent aussi certaines solutions applicables pour reconstruire des maisons et des édifices mieux adaptés aux véritables risques sismiques qui prévalent dans la région. Et Sophie-André Blondin, c'est à Sherbrooke que vous avez rencontré l'un de ces experts.
Oui, Patrick Poultre, qui dirige la chaire de recherche du Canada en génie parasismique et le centre de recherche en génie parasismique et en dynamique des structures à l'Université de Sherbrooke. Avec un séisme si puissant, un épicentre qui était si proche et si peu profond, évidemment, toute ville aurait subi des dommages importants. Mais en Haïti, des bâtiments sont tombés qui n'auraient pas dû s'effondrer.
Et c'était souvent d'ailleurs des maisons en béton.
Oui, mais le matériau béton n'est pas en cause directement. En fait, il n'est pas seul en cause, quoique le contrôle de la qualité n'est pas toujours adéquat
en
Haïti. Il faut aussi examiner des méthodes de construction qui ne sont pas adaptées à un environnement qui est susceptible de subir des tremblements de terre. En Haïti, mais c'est le cas aussi dans les Caraïbes et en Amérique du Sud, souvent dans les constructions, les poteaux sont généralement trop fragiles par rapport aux poutres. Les poutres, elles sont horizontales dans les constructions. Elles supportent la dalle, le toit. Les poteaux, eux, sont verticaux. Et souvent, ces structures en béton sont inadéquates ou elles sont mal armées, inadéquatement armées. Il est originaire d'Haïti, Patrick Poultre. Il est architecte, il est ingénieur sismique aussi. Je l'ai rencontré à l'Université de Sherbrooke.
Il y a des moyens de faire, de très très bien résister aux tremblements de terre. Vancouver est dans une zone assez sismique et il y a des bâtiments en béton armé qui font 30, 40 et plus étages. San Francisco, Los Angeles. Est-ce que ça peut être adapté en Haïti? Je pense que oui. Au lieu d'utiliser des murs systématiquement, des murs en maçonnerie non armée, de prévoir des murs armés raisonnablement bien et qui pourrait aider à résister aux charges latérales. Ça serait une solution déjà relativement simple. Ensuite, de bien armer les poteaux, ce qui coûterait pas beaucoup. Respecter quelques règles de dimensionnement sismique qui veut que on ait des poteaux qui sont relativement forts et des poutres relativement faibles. Parce qu'on préfère que les poutres s'endommagent, parce que ça ne va pas s'effondrer. Un poteau, si ça s'endommage, le bâtiment s'effondre, alors que la poutre ne va pas causer l'effondrement. Il y a des choses relativement simples, mais c'est une question d'éducation. C'est une question de bien faire comprendre aux ingénieurs, aux ouvriers, mais aussi à l'architecte particulièrement. Il y a des choses qu'il faut éviter. Exemple, éviter toutes ces irrégularités, si vous voulez, dans le bâtiment, faire quelque chose de simple par rapport à quelque chose de trop compliqué, éviter des décrochements, éviter des angles, des choses comme ça. Tout ça, c'est des petites règles à suivre qui aident à la construction de bâtiments qui résistera plus ou moins bien à un séisme.
Patrick Paultre, donc, qui est architecte et ingénieur sismique. Et Sophie André, ce qu'il propose, ça semble assez simple, non?
Oui, armer le béton avec ses armatures d'acier. Mais le fait qu'il existe de telles solutions simples, ça n'empêche pas que la recherche se poursuit pour trouver des nouvelles façons de construire des bâtiments qui résistent mieux aux tremblements de terre. Ces genres de recherches qui sont menées au Centre de recherche en génie parasismique et en dynamique des structures. Là-bas, Yannick, la terre tremble sur commande, en laboratoire évidemment, avec des murs de réaction, des planchers sismiques, différents types d'armatures d'acier. Le directeur Patrick Paultre m'a fait visiter.
Alors ici, on prépare le matériau béton, différentes formulations de béton. C'est peut-être le plus grand labo de béton au Canada.
Un peu plus de sable, un peu moins de sable.
Du ciment, des adjuvants, toutes sortes de produits chimiques qui sont ajoutés de façon à obtenir le comportement, si vous voulez, rhéologique du béton lui-même. Ça veut dire plus fluide, plus fort, moins fort, etc. Ça, c'est le labo de structure.
Ça prend de très grands laboratoires.
Oui. Ça, c'est des grands murs de réaction qui permettent, en fait, d'appliquer des charges latérales sur les structures. On a des vérins qu'on accroche aux structures, donc on peut pousser sur les murs, on peut pousser sur les structures ici. Ça, c'est un béton qui a été formulé spécialement, qui est très liquide. Donc, quand on le coule, ça donne un produit fini qui est raisonnable et le béton s'est bien placé. Si vous ne faites pas attention, vous faites un béton qui est très, très mauvais.
Aïe, 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 c'est pas très
beau.
Vous
voyez, ça ne se place pas, là. Et ça, ce sont les étriers, ou si vous voulez, les cadres. Donc, vous voyez, ces barres sont des barres verticales qui reprennent les charges verticales. Mais il faut les retenir latéralement, sinon tout éclate durant un tremblement de terre. Le placement de ces cadres, c'est d'une importance capitale pour un bon comportement durant un séisme.
Et là, c'est beaucoup d'acier dans le béton, ça. C'est plus d'acier que ce qu'on avait imaginé ou ce qu'on voyait avant, là.
Ça, c'est particulier. C'est pour une étude. Mais en général, en zone sismique, il va falloir en placer quand même pas mal aux extrémités des poteaux parce que vous voulez vraiment pas que les poteaux cassent parce que tout s'effondre. C'est l'élément principal à protéger.
Est-ce que c'est pensable? Est-ce que c'est beaucoup plus cher? Est-ce que, par exemple, pour reconstruire Port-au-Prince, il va falloir insister pour ajouter, avoir ces cadres-là?
Faites attention à ne pas vous blesser. Non, pas vraiment. Ce qui coûte très cher, particulièrement les pays développés au Canada, ce n'est pas vraiment le matériau en lui-même, mais c'est le fait de les plier, de les placer. Il faut payer quelqu'un pour qu'il les place de la façon correcte, qu'il les attache, etc. Mais la main-d'œuvre coûte très peu en Haïti. Donc, ce n'est pas ça qui est le problème. Et probablement qu'ils devraient le faire et de bien le faire parce qu'il y a un taux de chômage élevé. Les ouvriers sont très compétents et font très, très bien le travail puisque j'ai déjà construit quelques structures en Haïti et je sais qu'ils travaillent très bien. Donc, ce n'est pas le problème. Le problème, surtout, c'est de bien former les gens, c'est de bien montrer comment faire et de bien faire.
Alors, c'est assez simple et c'est une solution qui est applicable et adaptée.
Tout à fait.
Vous avez peur que je me coupe. Hein?
Oui, c'est ça.
Je vais faire attention.
Ça, c'est la partie béton armé en tant que tel. Et on a parlé d'isolation sismique. En fait, ça, c'est un exemple. C'est un coussin en caoutchouc naturel. C'est souvent mis dans des ponts. Mais dans ce cas particulier, on les place en dessous d'un poteau. Et donc, imaginez que toute la structure repose uniquement sur des choses comme ça.
Sur un petit coussin.
C'est pas si petit que ça.
C'est du caoutchouc. Je peux toucher?
Oh oui, absolument.
C'est du caoutchouc.
C'est du caoutchouc, c'est naturel, c'est mou, mais.
Et ça, c'est, évidemment, ça évite au béton ou à la structure d'accuser le coup.
La vibration vient du sol. Et quand on place les coussins, faites attention, quand on place les coussins sous la structure bouge, mais comme un bloc sur ces coussins de caoutchouc qui se déforment complètement. Donc ça évite d'endommager la structure, si vous voulez, parce qu'on absorbe l'énergie à partir de ces coussins de caoutchouc. Ça coûte très cher. Hein.
C'est très cher.
C'est exactement ça. Et on ne l'aura pas, là. Non, il faut trouver des solutions adaptées, simples et à très peu cher. Alors là, on va aller dans l'autre labo,
absolument,
qui est un petit peu plus occupé avec des vraies structures, des essais pour illustrer ce qu'on fait.
Est-ce qu'il est difficile de convaincre de l'importance de penser en termes de possibilité de séisme? Est-ce que vous trouvez ça difficile? Là, Haïti survient, tout le monde s'y intéresse.
Oui, on va tout oublier dans un an.
Dans un an?
Ah oh, oui, bien sûr. Certainement pas en Haïti. Mais vous savez, on fait des demandes de recherche où on dit qu'on va étudier l'effet des séismes au Canada, au Québec, et particulièrement au Québec. La réponse, c'est pas un problème. C'est ce qu'on entend. Et s'il n'arrive pas un événement, personne ne se préoccupe du problème. À part les chercheurs, évidemment, qui travaillent dans le domaine. On va redescendre. Il y a une étudiante qui a demandé à un de mes collègues « Pourquoi vous êtes spécialisé en sismique ?» Et il a dit « Bah, il y a eu des tremblements de terre au Québec, à Chicoutimi, en 88. » Et la réponse était « Ah, j'étais pas né. » Donc, ils ne sont pas au courant de ces choses. Alors, ce que vous voyez ici, c'est un mur de réaction. Ça, c'est les vérins connectés à l'ordinateur que vous voyez qui est là. Donc, c'est un couplage numérique et expérimental où on simule le tremblement de terre à l'ordinateur et on envoie des signaux aux vérins qui permettent de faire bouger la structure de façon tout à fait similaire à ce que la structure aurait ressenti durant un tremblement de terre. Et vous voyez ici la structure qui est une structure en acier. Et ce qu'on développe ici, c'est des systèmes de contrôle des vibrations. Ici, oui, c'est un coussin de caoutchouc, encore une fois, fabriqué par une compagnie de l'Estrie et qui permet d'isoler les vibrations. Et ça, imaginez que ça, c'est une pharmacie, c'est une école. Ça, c'est une baie d'un bâtiment.
C'est en vrai on serait dedans, là.
Oui, c'est ça. Et donc, ça, c'est la poutre qui supporte la toiture ou le plancher.
On veut qu'elle tienne.
Oui, éventuellement, mais je peux le faire bouger pour vous, si vous voulez.
Ah oui? Il y a quelqu'un à l'ordinateur, alors il est en train de décider de l'intensité.
Ce qu'il va envoyer comme signal à la structure. Vous voyez ici? Regardez, tout bouge en haut, mais les deux diagonales ne bougent pas beaucoup. Si ce n'était pas là, vous auriez eu probablement une rupture d'une de ces deux diagonales.
Donc, oui, parce que le vérin bouge beaucoup et c'est le caoutchouc qui absorbe.
Exactement. Donc vous voyez l'effet du tremblement de terre sur la structure et regardez ce qui se passe ici, tout est isolé. C'est pas très 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 rapide un tremblement de terre par rapport à d'autres charges comme une explosion, c'est extrêmement rapide. Un effondrement, c'est extrêmement rapide. Un tremblement de terre, c'est relativement lent. Là. Donc c'est ce qu'on développe actuellement à Sherbrooke. Ça, c'est un système original qui a été développé ici et qu'on compte bien breveter un jour. Et ce que vous entendez, c'est les déformations de la structure là. Hein. C'est les connexions qui font ce bruit là. Hein.
Ça bouge dans plusieurs sens.
Les diagonales.
On voit presque une onde qui traverse.
Oui, c'est ça. C'est ça. Déforme.
Une onde qui traverse un matériau solide.
Oh, oui, bien sûr. Oui, c'est tout à fait ça. S'il n'y avait pas le caoutchouc, c'est ça que vous auriez eu.
Là. Ah, là,
c'est la même chose. Même essai, mais sans caoutchouc.
Vous la l'onde a laissé ses traces.
C'est ce qu'on appelle flambé. Donc la diagonale a flambé dans ce cas-ci. Et donc, est complètement déformée. Là. Et je vais vous montrer en fait une autre expérience qu'on fait. On va passer par le mur de réaction parce que c'est plus simple et moins dangereux.
C'est du mur.
Ah, ça oui. Et c'est pour ça que je vous dis, les murs, comme ça, ça résiste à des tremblements de terre.
Oui.
C'est épais. Hein. Regardez, vous allez voir.
Oui.
Ça fait 800 mm d'épaisseur de béton et il y en a un deuxième ici. Et des murs croisés, c'est idéal pour les tremblements de terre. Hein.
S'il y avait un séisme à l'Université de Sherbrooke, où est-ce que vous iriez ici?
Ici. Alors, ce que vous avez vu, c'est une partie d'un bâtiment en vraie grandeur.
Ouais.
Ce qu'on a fait ici, c'est construire à échelle réduite un tiers d'un vrai bâtiment. Et donc, vous avez trois étages. Et encore une fois, on a introduit ces diagonales que vous voyez ici, qu'on appelle des contreventements. Ça vient du mot pour résister aux charges de vent, mais ça résiste aussi aux charges sismiques. Et on a ajouté ici Vous voyez un coussin de caoutchouc qui est ici. Là, hein. Et ça, ça permet de dissiper l'énergie. Pourquoi on l'a fait ? C'est parce que la table que vous voyez ici, c'est une table sismique. On fait bouger la table et suivant un signal réel ou artificiel. Et ça simule l'effet réel du tremblement de terre avec les vitesses et autres. Et après, on peut vérifier avec l'autre expérience là-bas qu'on conduit de façon lente. Donc, on peut comparer le comportement des deux structures. Je peux vous la faire bouger, la structure, si vous voulez.
Oui, absolument, ouais. Je veux voir ça.
Bon, alors, ça, c'est la salle de contrôle. Olivier Goron va vous faire bouger la table.
Vous allez la faire bouger à quelle intensité, là ?
Quand même, une intensité assez faible. Le but, c'est juste d'illustrer la vibration de la structure. Donc, c'est...
Je traverse.
Donc, vous voyez, ça bouge. Oui. Ça, c'est l'effet du tremblement de terre. Vous voyez, ça bouge plus ou moins fort. Et,
oui.
Et vous voyez, la structure elle-même se met à bouger, c'est
oui.
Ça, c'est ce que ressentent les gens durant un tremblement de terre. Bon, enfin, c'est pire, parce que là, le mouvement est dans une seule direction,
ouais.
Mais ça bouge dans toutes les directions, ça bouge comme ça, ça bouge comme ça, ça bouge verticalement et ça tourne aussi, là, d'accord ?
Dans un vrai tremblement de terre.
Ah oui, ouais. Absolument. Alors, ce que vous ressentez, vous pouvez y aller dessus si vous voulez, mais vous n'allez pas vous tenir debout, là.
Non, on aurait du mal à rester debout,
ouais.
Là, les meubles commencent à tomber dans la maison, là.
Ici, oui, oui, oui. Non, mais là, ça tient très bien, là. Hein. C'est pas un problème. Le bâtiment a été construit pour, et s'il y a quelque chose de sécuritaire, c'est ça. Hein. Vous allez tomber, peut-être. Les choses vont tomber, mais la structure va résister. Hein. Ça va ?
Ça va, oui. C'est impressionnant. Okay.
C'est bon ?
Merci.
C'était Patrick Paultre, qui est détenteur de la chaire de recherche du Canada en génie parasismique et aussi directeur du Centre de recherche en génie parasismique et en dynamique des structures à l'Université de Sherbrooke et qui faisait visiter ses laboratoires. C'était toute une visite, Sophie André.
Absolument. Dans quelques semaines, M. Paultre compte se joindre à une délégation d'ingénieurs sismiques américains et canadiens qui doit se rendre sur place en Haïti.
Merci beaucoup.
Louis-André Bertrand, journaliste au site Internet des Années-Lumière. Je vous rappelle que votre magazine d'actualité et de culture scientifique est disponible sur le web à l'adresse radio-canada.ca/lumière et également en diffusion en direct sur Sirius et en flux MP3. Vous pouvez même emporter l'émission dans votre poche en vous abonnant à la balado-diffusion sur notre site Internet. Il n'y a plus d'excuses pour manquer les Années-Lumière avec Yannick Villedieu.
Selon les bilans les plus récents, près d'un quart de million d'Haïtiens requièrent une aide urgente. Ils ont besoin de soins médicaux, de médicaments, d'eau, de nourriture. Et c'est sans compter, bien sûr, les 2 millions de sans-abri qui comptent eux aussi sur l'aide internationale pour traverser la crise. Les besoins sont donc énormes, mais l'aide, elle, n'est pas toujours au rendez-vous. Et c'est le moins qu'on puisse dire, n'est-ce pas, Chantal ? Donc, vous êtes demandé comment la science pouvait venir à la rescousse en cas d'urgence humanitaire.
Je me suis demandé, en fait, Yannick, si on pourrait mieux réagir si on mettait davantage la science à contribution.
Oui.
Et la réponse simple, c'est oui, mais encore faut-il s'en donner les moyens. À cet égard, je vous donne un exemple très concret. On peut, par exemple, grâce à la télédétection, évaluer à l'aide d'images prises par satellite les dommages sur le terrain, on le fait couramment, mais lorsque vient le temps de coordonner l'envoi de secours et de matériel, là, ça se complique, on vient de le voir, surtout quand les moyens de transport et de communication sont perturbés, comme c'est le cas en Haïti. Et pourtant, on pourrait appliquer au secteur de l'humanitaire tout un champ d'expertise dérivé de ce qu'on appelait à l'origine la recherche opérationnelle. Ça s'étudie aujourd'hui, tout ça, dans bon nombre d'universités, Yannick, et même au MIT, le réputé Massachusetts Institute of Technology. Alors, cette discipline, la recherche opérationnelle, ça a vu le jour durant la Deuxième Guerre mondiale en Grande-Bretagne, alors qu'on voulait optimiser les techniques de détection précoce des Allemands au large des côtes. Et aujourd'hui, c'est une science qui utilise des outils d'analyse de données très sophistiqués et qui fait appel à des notions en mathématiques, en informatique, en génie, en sciences de la gestion également, dans le but de résoudre ce qu'on considère comme étant des problèmes complexes. Alors, c'est un outil qu'on utilise dans une foule de secteurs, maintenant, tels par exemple le transport, la santé, le commerce, le monde du travail, bref, partout où on veut prendre la meilleure décision possible et où plusieurs variables entrent en ligne de compte.
Et plus précisément, ce qu'il en est avec l'humanitaire, alors?
Eh bien, c'est justement là tout le nœud du problème, Yannick, parce que pour le moment, le secteur humanitaire tarde à prendre ce virage. Cela étant dit, c'est tout de même mieux qu'il y a une décennie. Je vous propose d'écouter à ce sujet un pionnier dans ce domaine. Il s'appelle Luc Van Vassenov. Il est ingénieur de formation et il est rattaché à l'INSEAD. Ça, c'est une des grandes écoles de commerce dans le monde. Il dirige présentement le programme de recherche en logistique humanitaire au campus de l'INSEAD à Fontainebleau, en France. Luc Van Vassenov nous parle tout d'abord des progrès faits en matière de logistique par les organisations humanitaires.
Il y a 10 ans, ils étaient vraiment dans le Moyen-Âge. Maintenant, ben, ils sont peut-être dans le 20e siècle, mais il faut les mettre dans le 21e siècle. Donc, ce qu'il faut faire, c'est-à-dire, travaillons quelques années en étroite collaboration avec ces organisations humanitaires, voyons comment elles font les choses, quels sont les points forts, quels sont les points faibles dans toute cette chaîne logistique, si vous voulez, avec tout ce qu'il y a autour, comme système informatique, formation des gens, etc. Et puis déjà, on peut voir comment éduquer certaines organisations à améliorer les compétences. On a été très proches. On a passé 2-3 ans à travailler sur des études de cas avec toutes sortes d'entreprises dans le monde humanitaire.
Comme par exemple, pouvez-vous nous citer quelques exemples d'études de cas que vous avez faites, Louis Van Vassenov?
Nous avons fait, je ne sais pas, on doit en avoir 40 ou 50 qu'on a développé sur tous des thèmes différents. Donc, on a commencé à travailler sur ce qu'on appelle disaster response. Donc, c'est la réponse qu'on voit maintenant à Haïti. On a commencé avec la Croix-Rouge. On s'est rendu compte très rapidement que, bon, on pouvait pas bien répondre si on n'était pas bien préparé. Donc, on peut commencer à réfléchir quels sont les différents éléments de la préparation. Donc, on a travaillé sur préparation. Il y a encore beaucoup à faire, mais il y a quand même beaucoup de principes de préparation qui ont été développés. Bon, un exemple, c'est tout simplement de décentraliser les choses et de mettre des stocks dans les régions. Hein, comme a fait la Croix-Rouge avec ses Regional Logistics Centers.
Dans ce cas-ci, je crois qu'on avait des choses au Panama, entre autres, qui étaient relativement bien situées.
Oui, Panama, Kuala Lumpur et le troisième, j'oublie, mais à Dubaï. Et donc, ils ont 3 Regional Logistics Centers et ils ont prépositionné des choses, là, des marchandises. Et donc, ils sont capables de réagir très rapidement de ces centres régionaux. Donc, ils ont standardisé, par exemple, leur kit pour qu'est-ce qu'il faut pour une famille pour la première semaine pour survivre. On peut définir un kit, on peut le standardiser, on peut avoir des accords standardisés avec des fournisseurs, on peut prépositionner ces standard kits dans les magasins régionaux, et puis quand il arrive quelque chose, on peut le déployer très rapidement. Donc il y a eu tous les éléments qu'on connaît du business, on les a transportés, transférés, et adapté au monde humanitaire. Donc, il y a beaucoup de choses qui ont été faites dans ce domaine.
On parle de chaîne logistique, M. Van Vassenov. Qu'est-ce que c'est exactement que la gestion de cette chaîne logistique? C'est quoi une chaîne logistique et comment on la gère dans le domaine de l'humanitaire?
Ben, normalement, une chaîne logistique, c'est très simple. Il faut acheter des composants, il faut les transférer en modules. Les modules sont finalement transférés ou assemblés dans un produit comme une voiture. Hein. Ça peut se faire sur différents continents. Il y a peut-être des centaines, voire des milliers de fournisseurs qui sont impliqués dans toute cette chaîne pour, à la limite, avoir une voiture. Et puis, il faut distribuer la voiture vers un client. Donc, vous voyez, ça, c'est une chaîne logistique dans une entreprise commerciale. C'est déjà assez compliqué, mais au moins, il y a un but lucratif. Hein,
il y a des profits à la clé. Mieux on fait, plus on gagne, c'est ça?
Il y a de l'argent, d'une façon ou d'autre. Il y a une coordination assez logique parce que le fournisseur, il veut s'aligner avec, l'assembleur de la voiture parce que tous les deux veulent vendre plus. Ils veulent gagner plus. Maintenant, vous prenez une chaîne logistique après un désastre comme Haïti. Hein? Déjà, dans la chaîne logistique, par exemple, quand on pense à des voitures, on sait très bien où sont les fournisseurs, où sont les clients. Alors, pour un désastre, c'est un peu plus compliqué parce qu'on ne sait pas très bien où sera le prochain. Hein? On n'est pas prévu à Haïti. on pouvait prévoir que c'était une région quand même qui était susceptible, mais enfin, on ne sait jamais quand ça va arriver et quelle sera l'ampleur. Donc c'est déjà très difficile. Si tout est détruit, on ne sait pas facilement combien il faut, hein, et de quoi, combien de gens sont affectés, où sont-ils, quels sont leurs besoins. C'est déjà très compliqué, c'est très différent d'une chaîne commerciale. Alors, qui est le client?
Et qui est le chef surtout, qui coordonne?
Oui, qui coordonne, tout le monde n'a pas les mêmes objectifs. Qui est le client? Est-ce que c'est la victime ou c'est l'organisation qui donne de l'argent? Tous les deux sont les clients. Qui coordonne, comme vous dites, c'est beaucoup plus complexe. Voilà. Et tout se passe dans un environnement où il y a beaucoup de pression sur le temps, hein, on n'a pas vraiment le temps, et où il y a des centaines, des milliers d'acteurs qui tous essayent de faire quelque chose.
Qu'est-ce qu'on devrait faire présentement de votre point de vue? Est-ce que, par exemple, votre centre de recherche sur la logistique humanitaire est impliqué de quelque manière que ce soit pour essayer d'améliorer les choses?
Ah oui, bien sûr. Nous, ce qu'on fait comme école, c'est suivre vraiment tout ce qui se passe à Haïti, voir comment ça s'accorde avec tout ce qu'on a appris dans les 10 dernières années et ce que l'on enseigne pour le moment. Et on voit comment on peut utiliser le cas d'Haïti pour améliorer, pour mieux former les gens dans le pays, parce que c'est surtout dans tout le désastre, ça c'est une des grandes leçons, c'est qu'il faut améliorer la résistance locale, parce que ce sont ces gens-là qui peuvent réagir le meilleur et le plus vite. Hein, ça, c'est dommage quand on doit amener de l'aide internationale si les gens ne sont pas capables de s'aider eux-mêmes. Donc ce cas spécifique, il est très spécial parce que la structure locale a été détruite. Hein, toutes les ONG et toutes les organisations qui auraient pu aider, y inclut le gouvernement, ont été sévèrement blessées. Et donc ils ont eu besoin d'une semaine pour s'y remettre. Donc faut pas être étonné que tout ne se passe pas du premier jour. Et les médias ont un rôle important à jouer là-dedans. Oui, ça peut s'améliorer, mais il faut quand même comprendre la complexité. Et je pense que les médias ont aussi un rôle à jouer, de dire, écoutez, c'est pas si facile, on est en train de développer une science. D'année en année, ça s'améliore. Encouragez un peu ces gens, ne les critiquez pas tout le temps. S'il y a quelque chose à critiquer, ce sont beaucoup plus, les bureaucrates à des niveaux plus élevés dans ces organisations, qui ne sont pas toujours prêts à se rendre compte de l'importance de la logistique, qui ne sont pas toujours prêts à mettre de l'argent dans la préparation et l'amélioration des compétences dans la logistique, et qui ne sont pas toujours prêts à mettre en place des systèmes pour faire la coordination entre les différents ONG et organismes humanitaires. Donc c'est plutôt là où le bât blesse.
Mais écoutez, je vous remercie infiniment pour toutes ces précisions, Luc Van Wassenhove. Merci beaucoup. Pour cet entretien. Au revoir, merci et bonne fin de journée à vous.
Bye-bye.
Luc Van Wassenhove dirige le programme de recherche en logistique humanitaire à l'INSEAD, une des grandes écoles de commerce dans le monde.
Et pour conclure, Yannick, je vous dirais qu'il a évalué lors d'opérations d'urgence que la logistique compte en moyenne pour 80% des coûts. Alors imaginez ce qu'on pourrait faire de plus pour un même dollar dépensé si on investit un tant soit peu dans la science pour optimiser les interventions dans le secteur humanitaire en s'appropriant des outils sophistiqués d'analyse de données qui existent déjà et dont on sert dans le secteur privé. À cet égard, il estimait que les organisations humanitaires ont à peu près une quinzaine d'années de retard par rapport au secteur privé.
Merci beaucoup, Chantal.
Je vous en prie.
Vous écoutez Les Années-Lumière, le magazine d'actualité et de culture scientifique de la première chaîne de Radio-Canada. Venir en deuxième heure, pourquoi la science ne peut venir à bout des bombes artisanales en Afghanistan?
Pour les dispositifs de mise à feu, mais encore là, ils vont utiliser maintenant les téléphones cellulaires ou des minuteurs pour des machines à laver ou des petites boîtes de contrôle pour des jouets comme des trains électriques qui sont contrôlés par radio.
Courrier des années-lumière maintenant. Cette semaine, nous avons reçu une question sur la prévision des séismes.
Bonjour, je suis Anne Bessin. J'ai une quelque chose qui m'intrigue beaucoup. Dans les années entre 75 et 78, un ingénieur grec avec une équipe avait conçu un appareil qui pouvait prévoir une secousse sismique à un ou deux jours précédant l'événement. Et cette invention, on n'en a jamais entendu parler depuis. Donc je vous demanderai de faire une recherche là-dessus et de donner une réponse, parce que c'est aberrant que cette machine ait existé, ou existe encore peut-être, et qu'elle ne soit pas utilisée. Alors voilà, je vous remercie beaucoup de trouver la réponse à cette question, parce que probablement que ça aurait pu éviter cette catastrophe et d'autres encore qui sont arrivées depuis. Je vous remercie. Au revoir.
Alors, Mme Bessin fait référence dans sa question à la fameuse méthode VAN, V-A-N, du nom des trois scientifiques grecs qui l'avaient mise au point, développée en tout cas Varotsos, Alexopoulos et Nomikos. Alors, développée surtout à partir du début des années 80, cette méthode VAN a suscité de nombreux espoirs, il faut le dire, et fait couler beaucoup d'encre, je m'en rappelle. Sauf qu'aujourd'hui, elle semble être tombée dans l'oubli. Pour en savoir davantage, Chantal Srivastava a joint Barbara Romanovic, directrice du laboratoire de sismologie de l'Université de Berkeley en Californie. Barbara Romanovic explique tout d'abord en quoi consistait cette méthode VAN.
Eh bien, cette méthode consistait au fait qu'ils observaient sur des enregistrements électriques, c'est-à-dire ils mettaient des électrodes dans le sol et ils mesuraient le potentiel en fonction du temps entre ces électrodes, et ils prétendaient voir quelques semaines, jusqu'à une semaine avant certains séismes, un signal assez net qui sortait du bruit de fond, si vous voulez. Et ils avaient relié ça avec la sismicité, et à plusieurs reprises, ils avaient eu du succès, c'est-à-dire qu'ils avaient fait des observations, ils avaient envoyé des télégrammes aux autorités, et il y avait eu un séisme de magnitude 6 ou de cet ordre-là, suivant ce télégramme. Mais il a été démontré, d'une part, qu'en fait, statistiquement, leur méthode n'était pas vraiment fiable, et d'autre part, on n'a toujours pas compris à quoi correspondaient ces signaux. Disons, l'explication physique, c'est qu'il y aurait des contraintes dans le sol, dans les roches, qui deviendraient particulièrement fortes avant le séisme et qui déclencheraient ces signaux électriques. Mais ça n'a pas été prouvé, et la complexité de la géologie est vraiment le problème. C'est-à-dire qu'en laboratoire, on peut éventuellement reproduire des effets sur des échantillons de roches qu'on a du mal à reproduire dans la nature, parce qu'il y a plein d'autres effets qui interfèrent.
Et donc cette méthode VAN a été reléguée aux oubliettes
J'ai l'impression, oui. Oui, mais il y a d'autres méthodes. Il y a aussi des méthodes qui mesurent des gazages de radon, par exemple, qui a été proposé à l'occasion du séisme de L'Aquila en Italie au printemps dernier.
Oui.
Donc il y a eu des observations de ce type-là, et certains ont prétendu que le séisme aurait pu être prédit. Mais encore une fois, ce sont des observations ponctuelles qui ne suffisent pas pour développer une méthodologie vraiment fiable, parce qu'on ne sait pas si la prochaine fois on peut compter dessus. Et j'aimerais dire tout de même qu'il y a beaucoup de charlatans dans ce domaine.
Oui, je n'en doute pas.
Et donc il faut se méfier un peu, parce que de temps en temps, assez souvent, il y a des annonces de nouvelles méthodes de prédiction sismique qui malheureusement, rapidement, tombent à l'eau.
Est-ce que c'est vrai que les Chinois, parenthèse, travaillent sur le comportement animal pré-séisme?
Oui, et tout à fait. Ils ont travaillé là-dessus depuis très longtemps. Et en particulier, ces études sur le comportement animal ont été invoquées il y a assez longtemps, en 1974, lors d'un séisme à Haicheng, qui avait été en quelque sorte prédit. Et on avait évacué la population d'une très grande ville juste avant un gros séisme. Et par contre, l'année suivante, en 1975, à Tangcheng, il y a eu 300 000 morts. Donc bon, ils font ça, et c'est vrai que les animaux réagissent peut-être assez fortement par avance, mais on ne peut pas compter sur eux. Enfin, du moins, jusqu'à présent, ils ne sont pas fiables. Donc, ça peut peut-être Si on les connaît mieux, on arrivera peut-être à des méthodes plus fiables, mais pour l'instant, et surtout si on comprend pourquoi, si vous voulez, ils sont sensibles. Ça aidera peut-être à développer des méthodes beaucoup plus fiables. Mais pour l'instant, ce n'est pas encore le cas.
Ben écoutez, Madame Romanovitch, je vous remercie infiniment pour toutes ces informations.
Mais je vous remercie aussi.
Merci, voilà. Au revoir.
Mon plaisir, au revoir.
Au revoir.
Chantal Srivastava s'entretenait avec Barbara Romanovitch, qui est directrice du laboratoire de sismologie à l'Université de Berkeley, en Californie. Alors, pour nous joindre, pour nous poser vos questions de science, vous avez le téléphone de la région de Montréal. Vous composez le 514-597-6166. D'ailleurs, au pays, vous faites le 1-800-752-9050, un numéro sans frais. Et vous avez aussi le courrier électronique, le courriel lumière@radio-canada.ca. La chronique des années-lumière avec Rachel Légère cette semaine. Rachel Légère, directrice du Biodôme de Montréal. Bonjour Rachel.
Bonjour Yannick.
Alors c'est l'année internationale de la biodiversité, on l'a dit, on va le dire beaucoup cette année. On parle souvent des 1 700 000 espèces qui existent sur la Terre. Il y en a encore, je ne sais pas combien, 5, 10, 20, 30, 80 millions à découvrir.
On ne sait pas.
On ne sait pas. Et vous allez nous dire aujourd'hui, Rachel, comment la génétique est en train, en fait, de un petit peu bousculer nos bonnes vieilles habitudes, nos bonnes vieilles idées sur les espèces, en tout cas sur certaines espèces, n'est-ce pas?
C'est ça, c'est que depuis très longtemps, depuis, on remonte à Linné dans les années 1750, il y a eu une classification qui date de plus longtemps, mais la classification qu'on connaît classique, c'est celle de Linné.
Donc, les espèces vivantes, animales, végétales.
Végétales, oui. Il a voulu essayer de faire de l'ordre et dire, bon, quand est-ce que les espèces sont apparues? Quel est le lien de parenté entre chacun? Qu'est-ce qui se passe avec? Parce qu'on sait tous que l'arbre phylogénétique, l'arbre de l'évolution, a un tronc commun. Mm-hmm. Puis à partir de là, il y a des embranchements. Donc, c'est quoi le degré de parenté entre les espèces? Et on dit que toutes les espèces sur Terre ont à peu près 25 % de liens de parenté, donc 25 % de leur matériel génétique, l'ADN, qui serait commun.
Par exemple, l'homme avec les chimpanzés.
L'homme et le chimpanzé, là, on est très proche. On parle d'à peu près 98 %
L'homme et la feuille de salade.
L'homme et la jonquille, on dit 35 % Donc, on n'a pas tendance à penser qu'on a des liens de parenté avec une plante, mais oui, avec la jonquille, on aurait 35 % de liens. Donc, vous pouvez vous imaginer, là, tous les liens et comment on fait pour voir à quel moment une espèce est apparue et dans quel embranchement elle se retrouve.
Parce que la classification des espèces, hein, c'est les ordres, les embranchements.
Oui, c'est ça. Il y a toute la liste. On commence par le règne, l'embranchement, la classe, l'ordre, la famille, le genre et l'espèce. Donc ça, c'est vraiment avec des noms latins pour que tout le monde, quand on parle d'une espèce avec son nom latin, on sait qu'on parle de la même espèce.
Exactement.
Parce que les noms communs sont différents d'une région à l'autre.
Et cette classification, donc, inaugurée par le botaniste Linné, là, au 18e siècle, cette classification-là, elle se basait d'abord, j'imagine, elle se fondait d'abord sur l'apparence.
C'est ça, ce qu'on appelle...
Ça se faisait à l'œil, si je peux me permettre.
Les caractères morphologiques.
D'accord.
Donc, chez les oiseaux, on va regarder le plumage, la couleur, la grosseur du bec. Chez les mouches, on regardait le nombre de petits poils sur les pattes.
Ouais.
Donc, parfois, c'était assez réel comme lien, mais parfois, il y avait beaucoup d'erreurs, finalement. Mm-hmm. Et aujourd'hui, avec la découverte de la génétique, on est capable de prouver ou de dire que certains liens ne sont pas bons.
C'est ça. Alors donc, c'est ce qu'on appelle la classification phylogénétique. Ça se passe, ça marche comment, ça? Donc, c'est basé sur l'étude de l'ADN?
C'est ça. On compare des segments d'ADN. Il faut comprendre ici que ce sont des études et de la recherche qui coûtent très cher et qui demandent beaucoup de taxinomistes. Et ça, il n'y en a pas beaucoup.
Il n'y en a pas beaucoup.
Donc, comment refaire tout le tri dans tout 1,7 million d'espèces, là? C'est beaucoup d'espèces.
C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup.
Ouais. Et là, on se rend compte, en faisant ces segments-là, qu'il y a des animaux qui sont vraiment pas bien classés, qui sont pas dans la bonne famille, ou encore deux espèces qui devraient être beaucoup plus proches, d'autres qui n'ont aucun lien. Donc, il y a tout un
travail. On s'est rendu compte qu'il y avait des... Est-ce qu'on a des exemples de ça ou de questions qu'on peut se poser sur des espèces ou des animaux qui auraient été... Ou alors on dit il y a pas une espèce, mais deux espèces, etc. Parce que c'est ce qui arrive aussi. Hein.
Je vais vous donner des exemples assez frappants des gros animaux. Les polars, par exemple.
Oui.
On n'est pas encore certain en 2010 s'il y a une ou deux espèces des polars. C'est assez incroyable.
Pourtant, oui.
Donc, il y a ce qu'on appellerait les espèces plus du Pacifique et les espèces de polars de l'Antarctique. On sait qu'il y a des écotypes, donc des différences vraiment assez marquantes dans l'alimentation, dans la grosseur, dans la coloration. Mais on n'est pas encore capable aujourd'hui de dire avec certitude si on a deux espèces, une espèce et une sous-espèce, ou si c'est la même espèce avec des sous-populations. L'éléphant, la même chose.
Bon, l'éléphant, petite bête.
Petite bête. Fait qu'imaginez-vous les petites mouches, les petits ménés, les petits oiseaux. Bon, là, je vous parle d'exemples très concrets.
Alors, l'éléphant.
L'éléphant. Bon, on disait qu'il y avait deux espèces. Les éléphants d'Afrique, les éléphants d'Asie.
Oui, ça, c'est aujourd'hui, la sagesse classique. Ils avaient donc probablement deux noms latins différents. Oui,
mais en Afrique, on disait qu'il y avait deux sous-espèces.
Oui.
Et récemment, avec les analyses génétiques, on se rend compte que les deux espèces d'éléphants d'Afrique sont vraiment deux espèces et non des sous-espèces.
Ça, c'est clair. Ça s'appelle l'éléphant de la savane, c'est ça?
Et l'éléphant des forêts.
L'Oxodonta, vous m'avez écrit sur votre papier,
Africana,
je ne sais pas si ça va.
Et l'Oxodonta cyclotis, qui sont les deux espèces d'éléphants d'Afrique. Mais ça, là, on ne parle pas d'il y a 40 ans. Là. C'est assez récent.
Oui, oui, c'est ça.
Et ça a été déterminé.
Et vous dites que ça existe aussi, j'imagine, forcément chez les insectes, les plantes, les oiseaux.
Les poissons, dans tout. Donc, il y a tout. Chez les oiseaux, il y a une reclassification. D'ailleurs, au Biodon, vous parlez de chez nous, on est en train de refaire nos panneaux d'identification parce que les noms ont changé. Et de façon assez importante.
Non, ça veut dire que les gens qui ont visité le biodôme il y a 2 ans ont été induits en erreur. C'est grave.
Ben non, parce que les noms étaient bons à l'époque. Ils ne sont plus bons aujourd'hui. C'est encore en train de changer. Donc là, je pense qu'on va trouver des façons de...
Pratiquement, là, ça veut dire quoi, ça?
Ben, pratiquement, ça a des conséquences plus que les noms.
Oui.
Par exemple, si on vient à l'éponard, si on parle d'une espèce menacée, si on se rend compte qu'on a deux espèces... Ça peut vouloir dire que l'espèce est peut-être encore plus menacée, parce que la définition d'une espèce, c'est qu'elle ne peut se reproduire qu'avec un membre de la même espèce.
Ou occasionnellement avec d'autres espèces, mais...
Ils peuvent se reproduire, oui, mais le rejeton va être stérile.
C'est ça.
Donc, si on veut une reproduction qui perpétue l'espèce, il faut que le petit puisse se reproduire quand il
évidemment,
sera grand.
Évidemment.
Donc, la notion d'espèce, c'est que l'individu ne peut se reproduire qu'avec un membre de la même espèce. Si on est rendu à deux espèces d'épolars, on dilue d'autant le monde, le nombre d'individus.
Et on pourrait penser que la population des polars de l'Antarctique, par exemple, est beaucoup plus en danger parce qu'il n'y a pas de réserve au fond génétique ou de reproduction possible avec l'autre population.
Exactement. Ça voulait dire qu'on va mettre tout ce monde-là ensemble pour qu'il y ait un plus grand pool génétique, mais là, on ne peut plus le faire. Mm-hmm. Et on va peut-être comprendre aussi pourquoi certaines espèces, que la reproduction ne fonctionnait pas.
Oui, parce qu'on essaye, j'imagine, dans les biodômes de ce monde.
Ben oui, en captivité, on essaie. Je suis sûre qu'il y a déjà eu des essais de reproduction de ces deux espèces d'éléphants qui n'ont pas fonctionné. Pourquoi? Bon, ben peut-être...
Parce que c'était deux espèces.
C'est peut-être pas ça la raison, mais peut-être que oui. Mmh. Donc, vous pouvez vous imaginer, ça a des répercussions un petit peu plus grandes que juste changer de nom.
Exactement. Et c'est une belle façon d'inaugurer l'année de la biodiversité. Hein. Peut-être qu'on a plus de biodiversité ou que la biodiversité, dans certains cas, est beaucoup plus menacée.
Effectivement, avec ses bons et ses mauvais côtés, mais au moins, on va savoir de quoi on parle.
Rachel Légère, je vous remercie beaucoup.
Ça me fait très plaisir.
Alors, c'est la fin de la première heure des Années-Lumière. Je vous invite à ne pas manquer ce soir à la télé de Radio-Canada à 18h30, Découverte. Il y aura un élément, bien sûr, sur le tremblement de terre en Haïti, comment ça s'est passé, etc. Et puis, bien sûr, aussi le scientifique de l'année de Radio-Canada, nos deux scientifiques là qui travaillent en épigénétique. Vous pourrez les voir et les suivre ce soir à la télé de Radio-Canada à Découverte. En attendant, vous restez avec nous. Après les nouvelles, la deuxième heure des Années-Lumière. Les Années-Lumière, deuxième heure. Rebonjour, rebienvenue, Yannick Villedieu, toujours et l'équipe, pour vous présenter le magazine d'actualité et de culture scientifique de la première chaîne de Radio-Canada. Dans cette deuxième heure, on va avoir, comme d'habitude, un petit journal de la science. Après quoi, je vais vous parler de C. difficile, de Clostridium difficile. Il y a du nouveau avec cette infection redoutée dans les hôpitaux. Et comme d'habitude aussi, on aura un auteur de la semaine, Sophie-André Blondin, va recevoir le géologue François Huot, qui a co-rédigé un livre intitulé « La baie James des uns et des autres ». Un livre magnifiquement illustré sur cette terre des cris qui est devenue la terre de l'énergie. Mais pour commencer, on vous emmène en terrain miné. Alors cette musique, elle vous est devenue familière, hélas, on l'entend de plus en plus souvent depuis quelques années avec tous ces militaires canadiens qui meurent au combat en Afghanistan. Et la principale cause de décès au sein des troupes, ce sont les bombes artisanales, comme on dit, aussi des engins explosifs improvisés, on dit aussi des bombes en bordure de route, traduction libre de roadside bombs. Alors ces engins posés et fabriqués par les talibans ont tué des dizaines de Canadiens en Afghanistan depuis 2002. On se rappelle par exemple récemment, à la fin de décembre, la journaliste Michelle Lang du Calgary Herald et quatre militaires canadiens sont morts quand le véhicule blindé dans lequel ils avaient pris place a sauté sur l'une de ces bombes meurtrières. Alors comment se fait-il, la question qu'on s'est posée, comment se fait-il que la science ne soit pas plus avancée dans la détection de ces engins? Marie-France Bélanger, vous êtes intéressée à cette question. Mais d'abord, un petit rappel du nombre de victimes que ces bombes ont faites chez les Canadiens.
Alors, au total, depuis l'arrivée des troupes canadiennes en Afghanistan en 2002, on dénombre quelques 140 morts chez les militaires canadiens. Et selon la Défense nationale, 70% de ces militaires sont morts à cause d'une bombe artisanale. Résultat, donc, les bombes artisanales représentent aujourd'hui la menace numéro un de l'armée.
Donc, beaucoup de victimes quand même à cause de ces bombes artisanales. Et ça peut paraître étrange, moi ça m'embête toujours un peu de dire artisanales pour des bombes qui sont aussi efficaces.
Effectivement, et j'ai demandé au major général à la retraite, Terry Liston, qui est allé en Afghanistan, de nous expliquer qu'est-ce qu'une bombe artisanale.
C'est une bombe faite à la maison par des groupes guérillas pour tuer ou détruire des véhicules, et c'est utilisé dans des guerres contre des armées conventionnelles, et c'est rendu l'arme de préférence maintenant des guérillas, quelle que soit la campagne.
Et donc, quand on dit artisanal, c'est par opposition à un procédé de fabrication industrielle, c'est ça?
Exactement. Maintenant, ils vont trouver les matériaux chez eux ou dans la nature. Pour les explosifs, ils vont utiliser des engrais chimiques. Ils vont utiliser les bâtons de dynamite qu'ils prennent dans des sites de construction. Pour les dispositifs de mise à feu, mais encore là, ils vont utiliser maintenant les téléphones cellulaires ou des minuteurs pour des machines à laver ou des petites boîtes de contrôle pour des jouets comme des trains électriques qui sont contrôlés par radio.
Mais est-ce que chaque bombe est différente finalement? Et c'est un peu pour ça qu'on utilise le mot « artisanal » ?
Oui, en effet, ça dépend principalement de l'explosif. Par exemple, on peut décider d'empiler 4 ou 5 mines anti-char, ou ça peut être quelques mines avec une obus toutes attachées ensemble. Ça dépend des moyens qu'on a, puis aussi qu'est-ce qu'on veut faire avec.
Le major général à la retraite, Terry Liston. Alors, Marie-France, j'imagine que les bombes artisanales en question là, qui explosent aujourd'hui en Afghanistan ne sont pas tout à fait les mêmes que celles qui explosaient au début de la guerre en 2002, il y a presque 8 ans.
Exactement, et ça pose des problèmes de détection. Les bombes artisanales sont de plus en plus complexes, Yannick. Les talibans ont amélioré leur technique. Selon la Défense nationale, environ 50% seulement de ces engins sont détectés. Je vous propose d'écouter le major Maxime Messier, ingénieur de combat. Il travaille au sein de l'organisation organisation responsable de coordonner les efforts des forces canadiennes pour contrer les bombes artisanales à la Défense nationale.
Les Américains, par exemple, aussitôt qu'ils sont rentrés en Irak, ils ont commencé à avoir la même problématique. Ils ont focusé beaucoup d'efforts à essayer de détecter, de trouver la solution miracle pour tout détecter les engins explosifs improvisés. Ils se sont rendus compte que c'était impossible.
Et pourquoi c'est si difficile?
Le gros problème qu'on a avec les engins explosifs improvisés, c'est que ça prend différentes formes. En plus, les insurgés vont adapter leurs techniques pour pouvoir contrer le plus possible les méthodes qu'on met en place de sécurité. Je vais vous donner un exemple. Un engin explosif improvisé qu'on retrouve très souvent en théâtre opérationnel, c'est communément appelé une base plate, une plaque de pression qui est faite avec deux lames de scie connectées à une charge principale qui est faite avec l'explosif fait maison. Souvent, la quantité de métal va devenir très difficile à détecter. Là. Ils vont réduire le plus possible le niveau de métal pour empêcher notre détection.
C'était le major Maxime Messier, ingénieur de combat, donc une technologie quand même finalement, Marie-France, relativement avancée. Que faire au point de vue technique, scientifique? Est-ce qu'on peut répondre à cette menace? Est-ce que la Défense nationale a une équipe de chercheurs là-dessus, j'imagine?
Oui, tout à fait. Le major Messier m'a expliqué qu'une trentaine de projets de recherche sont en cours pour mieux caractériser les engins, mieux les détecter aussi. Et en fait, au sein des pays de la coalition, plusieurs centaines de chercheurs travaillent sur le sujet.
Et j'imagine qu'on pourrait d'abord, au niveau de la conception des blindés, là, on pourrait faire quelque chose pour qu'ils résistent mieux aux bombes, la première chose qu'on pourrait faire?
Oui, c'est certainement une option. J'en ai parlé avec Yves Bélanger, professeur à l'UQAM et directeur du groupe de recherche sur l'industrie militaire et la sécurité. Alors, selon lui, l'ensemble des fabricants de blindés dans le monde tentent en ce moment de mettre au point des véhicules beaucoup mieux adaptés, plus résistants, Yannick, à cette nouvelle réalité sur le terrain. Il nous décrit en quoi consistent les améliorations apportées aux véhicules blindés.
La tendance actuelle de l'industrie, c'est plus de renforcer la capacité de résistance des véhicules aux explosions. En général, les blindages sont mieux pensés, plus épais dans certains cas, et également, beaucoup de véhicules ont une espèce d'assise de coque en V qui permet d'éviter que le souffle de l'explosion ait un effet aussi dévastateur que sur un véhicule traditionnel.
Qu'est-ce que ça signifie pour la vitesse du véhicule à ce moment-là? Est-ce que ces véhicules-là vont rouler moins vite?
Non.
Parce que si on augmente le poids?
Tout le défi est là. Le défi, c'est de produire un véhicule qui va être plus résistant, mais d'éviter que ça entraîne une augmentation trop importante du poids. Et certaines entreprises, au moment où on se parle, disent être en mesure de produire ce genre de véhicule-là, disent également être en mesure d'introduire dans la protection intérieure des véhicules des matériaux qui vont permettre d'amortir l'énergie de manière à ce que, évidemment, ça ait un effet moins dévastateur sur les personnes qui sont logées à l'intérieur des véhicules.
Ces véhicules-là, ils existent, là. Ils sont fabriqués en ce moment ou ce sont des prototypes?
Certains existent. Certains sont plus à l'état de dessin que, je veux dire, à l'état ou en mesure d'être commercialisés. Mais certains existent, oui.
Ces véhicules-là, nouveau genre, nouvelle génération, sont-ils déjà en Afghanistan?
Il y en a quelques-uns, oui, qui ont été déployés en Afghanistan. Vous savez, le Canada a déjà, en acquérant une nouvelle fournée de chars, okay, a déjà lui-même alourdi considérablement sa flotte et s'est équipé beaucoup mieux pour faire face à la situation. Maintenant, il reste encore énormément de véhicules de transport de troupes qui sont de type un peu plus classique.
Et donc, c'est la majorité des véhicules de transport de troupes sont plus classiques?
Oui.
Alors, c'était Yves Bélanger, qui est spécialiste de l'industrie militaire à l'Université du Québec à Montréal.
Et fait à noter, Yannick, que M. Bélanger ajoute que le gouvernement américain a même modifié un immense programme de mise au point de véhicules militaires pour tenir compte, justement, des bombes artisanales. Et puis, par ailleurs, à la Défense nationale, on indique aussi qu'on a fait des modifications à l'intérieur de véhicules pour limiter l'impact des explosions sur les soldats. Par exemple, les sièges sont attachés au plafond et non au plancher. Mm-hmm. Alors, quand les sièges sont fixés au plancher, la force de l'explosion est absorbée par le corps des militaires, ce qui peut complètement détruire la colonne vertébrale.
J'imagine, c'est-à-dire que tous ces changements-là, c'est comme le blindage renforcé, c'est pas des solutions miracles, non?
Vous avez raison, et c'est ce que pense aussi le major général à la retraite, Terry Liston, qu'on écoute à nouveau.
Par exemple, de concevoir un nouveau véhicule avec plus de protection, on le fait. Mais le Taliban, tout ce qu'il a à faire, c'est d'ajouter 3 ou 4 mines additionnelles dans le bombe artisanale qu'il fabrique et il va pouvoir détruire notre nouveau véhicule. Par exemple, le véhicule qui a été détruit où Mme Lang, le journaliste, et 4 soldats étaient tués, puis les autres passagers tous blessés, cet véhicule-là a été projeté dans l'air et puis a fait un trou à peu près 3 mètres de profond et 6 mètres de large dans l'asphalte même. Alors, ils sont puissants. Même les Israéliens ont un char d'assaut qui s'appelle le Merkava, qui est le plus solidement blindé au monde. C'est fait justement pour résister aux armes d'insurgés. Mais lorsque, dans la guerre contre les Hezbollah au Liban en 2006, les Hezbollah ont réussi à détruire un de ces chars-là, qui démontre jusqu'à quel point que les guérillas peuvent s'adapter à n'importe quel véhicule qu'on peut inventer. Ils vont trouver un moyen pour le faire sauter.
Ouais. En tout cas, Marie-France, ça veut dire que l'augmentation du blindage, c'est pas la solution parfaite. Idéalement, j'imagine qu'il vaudrait mieux faire de la prévention, c'est-à-dire ne pas sauter sur la bombe, c'est-à-dire détecter la fameuse bombe.
Oui, mais il semble que ce n'est pas toujours simple. Non. J'en ai parlé avec Philippe Ouliat, il est spécialiste du déminage pour handicap international. C'est un organisme spécialisé dans le déminage humanitaire, un organisme qui intervient aussi dans les situations d'urgence pour réduire le nombre de handicaps. Monsieur Ouliat a passé plus de 20 ans au sein de l'armée française, principalement dans le domaine du déminage. Avec Handicap International, il réalise des missions un peu partout dans le monde. Je l'ai joint au Tchad. La ligne téléphonique n'est pas parfaite.
Comme les bombes artisanales ont considérablement évolué dans leur conception depuis les années 90 ou 80 même, il est très difficile de les détecter et souvent, je dirais, elles explosent quand les militaires passent.
Existe-t-il une solution technique aux bombes artisanales?
Écoutez, compte tenu des types de mise à feu de ces engins qui sont de plus en plus électroniques, c'est-à-dire commandés à distance avec des appareils comme des téléphones portables, etc., c'est très difficile de créer des contre-mesures. Cependant, aujourd'hui, par exemple, en Afghanistan, les militaires sont tous équipés, enfin, tous les véhicules sont équipés de systèmes de brouillage qui créent, en fait, si vous voulez, une sorte de bulle autour du véhicule qui permet en fait de balayer les fréquences sur lesquelles le terroriste va envoyer son signal pour faire fonctionner la bombe. Et donc faire fonctionner la bombe probablement en amont du passage du véhicule.
Avec des drones ou des hélicoptères, est-ce qu'il est possible actuellement de repérer les bombes artisanales du haut des airs, de les identifier sous le sol avec des appareils?
Oui, il existe effectivement des systèmes de capteurs infrarouges ou autres qui permettent de détecter un certain nombre de choses dans le sol. Mais vous savez, c'est très difficile. Si l'engin est bien camouflé, c'est pas impossible, mais c'est difficile. Le plus souvent, on risque de détecter la personne qui observe et qui attend le passage des véhicules pour déclencher la mise à feu de sa bombe, quoi.
C'était Philippe Ouliat, qui est spécialiste du déminage pour Handicap International. Donc, détection, c'est difficile. On a cette image donc du Taliban qui est caché quelque part, qui compose un numéro de téléphone et qui déclenche la bombe à distance.
Oui, et les techniques de mise à feu ne cessent d'évoluer, ce qui rend d'autant plus difficile la détection, comme va nous l'expliquer le major général à la retraite, Terry Liston.
Au début, c'était simplement mécanique. Le véhicule passait sur un appareil de pression et de façon mécanique, la bombe était mise à feu.
Comme une mine traditionnelle.
Oui,
finalement.
Exactement. Cependant, après, pour contrôler la mise à feu, ils avaient un observateur avec, par exemple, un téléphone cellulaire. Et lorsqu'ils voyaient le véhicule, et lorsque le véhicule était juste au-dessus de la bombe, ils actionnaient la mise à feu. Cependant, les troupes de l'OTAN se sont équipées avec des appareils pour neutraliser ces émissions radio ou de téléphone cellulaire. Mm. Alors, ce que le Taliban font, c'est qu'ils ont développé un moyen d'armer la bombe avant que le convoi arrive. Mais ils le voient venir, ils savent quelle est la portée de ces mesures de neutralisation dans le convoi, puis ils vont armer leur bombe avant que le convoi arrive. Et là, lorsque le convoi arrive, la bombe est actionnée par un système de pression, comme la mine traditionnelle. Mais ce qui est sophistiqué, c'est que c'est armé à distance par une émission électronique. Et seulement lorsque le Taliban est certain que c'est un véhicule militaire qui arrive.
Marie-France, donc, l'amélioration des véhicules blindés, c'est pas vraiment très efficace. La détection, ça fonctionne pas tout le temps. Qu'est-ce qui reste comme option? Est-ce qu'on pourrait, je sais pas moi, surveiller les routes en permanence, par exemple?
On pourrait, oui. En fait, il existe des convois qui vont sillonner les routes en Afghanistan pour justement repérer les bombes artisanales, les faire exploser ou les extirper du sol, mais le cortège présente quand même certaines limites. Écoutons à nouveau le major général à la retraite, Terry Liston.
Le maximum qu'on peut sécuriser dans une journée de travail, c'est 150 kilomètres, ce qui est à peu près 2 heures de route à une vitesse normale à 50-60 kilomètres à l'heure.
Et comment se fait-il que malgré donc cet équipement-là, qui est ultra sophistiqué, qu'il y a quand même des soldats qui meurent à cause des bombes artisanales?
D'abord, on ne peut pas sécuriser toutes les routes la même journée, mais les soldats doivent se promener sur toutes les routes. Je ne peux pas vous dire combien de ces équipes-là sont en Afghanistan. Mais l'armée canadienne et ses publics a acheté 5 jeux d'équipement comme ça.
Si ces 5 équipes-là travaillent sans arrêt, est-ce que c'est possible à ce moment-là que les routes soient toujours, toujours sécurisées?
Non, parce que même si on avait une quinzaine d'équipes, parce que dès que l'équipe passe, mais peut-être lorsqu'ils sont 1 000 plus loin, le Taliban peut revenir puis de placer une bombe justement sur la route supposément sécurisée pas longtemps après qu'ils ont passé.
Donc, Marie-France, en conclusion, on n'est pas très, très avancé. Est-ce qu'on pourrait imaginer un véhicule vraiment qui pourrait détecter les bombes à l'avance tout en roulant à une vitesse normale? Est-ce que c'est imaginable?
Ce serait la solution miracle, mais c'est certainement pas pour tout de suite, selon Terry Liston.
Je dirais pas que les gouvernements ou les armées veulent faire mourir leurs soldats pour sauver de l'argent. Mais de l'autre côté, la capacité financière et technique pour développer des moyens, ça pourrait coûter une fortune pour un tel véhicule et ça peut être détruit dans un instant même et il faut en construire d'autres. L'argument est simplement que c'est peut-être possible sur le plan technique, mais si ça l'était, ça coûterait une fortune.
C'était le major général à la retraite, Thierry Liston. Donc, Marie-France, jeu du chat et de la souris entre les insurgés et les forces de la coalition, c'est comme ça qu'on peut résumer.
Tout à fait, et la course technologique est encore loin d'être terminée pour le moment.
Merci beaucoup, Marie-France.
Merci.
Une vulgaire moisissure se révèle très efficace pour concevoir des réseaux de transport ou de communication. Pour le prouver, le chercheur Atsushi Teru a placé la moisissure au centre d'un plan de la région de Tokyo. Aux emplacements correspondant aux villes voisines, il a placé de délicieux flocons d'avoine humide. Pour accéder à sa nourriture, Physarum polycéphalum développe un réseau gélatineux de filaments.
En moins de 26 heures, l'ingénieuse moisissure avait généré des filaments dont le trajet correspondait étonnamment au réseau ferroviaire qui entoure Tokyo. L'équipe d'Asushi Tero, qui publie ses résultats dans la revue Science, a extrait du comportement de la moisissure une formule mathématique dont les ingénieurs pourront dorénavant s'inspirer pour concevoir des réseaux de transport, de télécommunications ou des réseaux informatiques.
Le groupe d'experts sur l'évolution du climat a dû cette semaine défendre ses conclusions au sujet de la fonte des glaciers. Les glaciers vont fondre, soit, mais ceux de l'Himalaya ne vont pas disparaître en 2035, tel que publié par le GIEC dans son rapport en 2007. L'erreur avait été signalée il y a quelque temps déjà par Graham Cogley, un géographe canadien de l'Université Trent en Ontario. Selon lui, il était tout simplement impossible que ces immenses glaciers fondent si rapidement. Vérification faite, il a découvert que la date de 2035 avait été mentionnée par un scientifique indien interrogé par la revue New Scientist. L'information a par la suite été reprise dans un rapport du Fonds mondial pour la nature, mais n'a jamais fait l'objet d'une vraie publication scientifique. Et pourtant, cette date de 2035 s'est bel et bien retrouvée dans un rapport du GIEC. Une histoire qui illustre à quel point il faut s'assurer de la qualité et de la validité de nos sources, note le GIEC, qui demeure néanmoins convaincu que l'impact néfaste des changements climatiques sur les glaciers de ce monde est inéluctable.
Comment les lémuriens, ces mammifères aux grands yeux et à la longue queue qui ressemblent un peu à des singes, sont-ils arrivés il y a des dizaines de millions d'années sur l'île de Madagascar au sud-est de l'Afrique? Deux chercheurs ont peut-être résolu cette énigme. Les scientifiques concluent que depuis l'Afrique, les lémuriens ont traversé l'océan sur des troncs d'arbres ou des branchages, sorte de radeaux. Leur étude a été publiée dans la revue Nature cette semaine. Cette hypothèse semblait pourtant, jusqu'à tout récemment, impossible en raison des courants marins et des vents dominants orientés vers l'ouest. Or, les deux chercheurs se sont rendus compte que l'Afrique et le Madagascar n'étaient pas situés au même endroit à cette lointaine époque. En modélisant les courants océaniques de cette période, il y a entre 20 et 60 millions d'années, ils ont découvert que ces mêmes courants étaient favorables à la dérive d'un radeau vers Madagascar.
Clostridium difficile, maintenant, la fameuse bactérie responsable d'infections nosocomiales, autrement dit, d'infections contractées dans les hôpitaux et dont on a beaucoup parlé il y a quelques années quand une souche hyper virulente de ce C. difficile a fait son apparition. J'y reviendrai dans quelques minutes. Mais si j'en parle maintenant, c'est parce qu'une équipe de l'école de médecine de l'Université du Massachusetts à Boston a mis au point une nouvelle forme de traitement de ces infections. Cette nouvelle méthode a recours à des anticorps monoclonaux, c'est-à-dire à une variété bien précise d'anticorps qui ont été spécialement conçus pour neutraliser, non pas la bactérie elle-même, mais les deux toxines qu'elle produit. Et ces toxines, on le sait, sont les vrais responsables des dommages causés par C. difficile. Les explications de la docteure Deborah Mulrahan, co-auteure principale de l'article publié jeudi dans le New England Journal of Medicine.
We know for this disease, based on previous literature, that antibodies are very important.
On sait, à partir de ce qui a déjà été publié, que dans cette maladie, les anticorps sont très importants pour neutraliser les toxines. Donc, on a produit en laboratoire des anticorps spécifiques contre ces toxines. Et dans notre essai clinique, on a cherché à voir si, en donnant ces deux anticorps monoclonaux contre les deux principales toxines de la bactérie, et cela, en plus de l'antibiotique, on a cherché à voir si on réduisait le risque de rechute.
Et quels sont les résultats principaux de cette étude?
Considered, it's a phase two, a somewhat small study of 200 patients. What we were able to show is, again,
c'est une étude relativement petite sur 200 patients. Et ce qu'on a pu démontrer, bon, il y avait deux groupes qui recevaient l'antibiotique spécifique contre C. difficile, mais dans le groupe de 101 patients qui ont reçu les deux anticorps monoclonaux en injection intraveineuse, seulement 7% ont fait une rechute. Par contre, dans l'autre groupe, celui qui a reçu un placebo, 25% ont vu revenir la maladie.
On sait qu'il y a maintenant une nouvelle souche de cette bactérie. Est-ce que ce traitement va changer quelque chose avec cette nouvelle bactérie?
Yes, I mean, so you're right that in the past few years, a strain of bacteria.
Oui, vous avez raison. Au cours des dernières années, une souche de la bactérie plus virulente a fait son apparition. Et nous avons pu démontrer que les anticorps monoclonaux réduisaient le risque de rechute chez les patients infectés par cette souche épidémique. En fait, le taux de rechute a été de 8% chez les patients qui avaient reçu les anticorps et de 32% chez ceux qui avaient reçu un placebo.
La docteure Deborah Mulrahan de l'École de médecine de l'Université du Massachusetts à Boston. Cela dit, cette nouvelle approche thérapeutique, qui n'en est encore qu'au premier stade de son développement, il faut le rappeler quand même, cette nouvelle approche changera-t-elle quelque chose pour les patients? La réponse d'un infectiologue qui s'intéresse de près à cette question, le docteur Jacques Pépin du Centre hospitalier de l'Université de Sherbrooke.
C'est certainement très intéressant. En fait, ce que cette étude a démontré, c'est qu'en administrant des anticorps produits industriellement et qui sont dirigés contre les deux toxines produites par le C. difficile, que ça entraîne une diminution de la fréquence des rechutes. En fait, c'est ce qui se passe avec l'infection à Clostridium difficile. C'est qu'avec les traitements actuels, environ 20 à 25 des gens vont avoir une rechute, c'est-à-dire avoir un deuxième épisode quelques semaines après la fin du traitement de l'épisode initial. Ce que ce nouveau traitement semble faire, c'est de diminuer de façon importante la probabilité de faire une rechute. Alors, dans ce sens-là, oui, c'est un progrès notable.
Est-ce que c'est un traitement qui va remplacer les antibiotiques? Non, ça va être complémentaire au traitement par les antibiotiques quand même.
Oui, je pense pas que ça va jamais pouvoir remplacer les antibiotiques. Il va d'abord y avoir un problème important de coût. On ne connaît pas évidemment à ce stade-ci quel sera le coût de ce produit, mais si on se base sur le prix d'autres anticorps monoclonaux qui sont disponibles pour traiter un certain nombre d'autres conditions, ce sera comme ordre de grandeur, probablement quelques milliers de dollars par patient. Les antibiotiques qui sont disponibles actuellement coûtent quelques dizaines de dollars pour l'un d'entre eux, peut-être quelques centaines de dollars pour le deuxième, la vancomycine. Donc, je pense qu'à cause du coût des anticorps monoclonaux, on va continuer pour l'épisode initial de C'est difficile à donner uniquement les antibiotiques. Et à mon avis, les anticorps monoclonaux vont pouvoir se justifier chez les patients qui développent de multiples récidives. Maintenant, il faut savoir qu'il y a, avec la crise qu'on a eue au Québec en 2003-2004, la même souche s'est répandue ailleurs dans le monde, à travers les États-Unis, à travers l'Europe de l'Ouest. Il y a eu beaucoup d'intérêt et beaucoup plus de recherches sur de nouveaux traitements pour le C. difficile. Il y a un nouvel antibiotique qui n'a pas encore été commercialisé, mais qui devrait l'être, à ma connaissance, d'ici un an, et qui, lui aussi, d'après les résultats préliminaires, semble diminuer la fréquence de récidive.
Cette crise, hein, 2003, 2004, 2005, quand un grand nombre de cas de C. difficile s'était produit dans nos hôpitaux, des cas parfois assez graves pour entraîner des décès, est-ce que c'était la faute aux hôpitaux ou la faute à la nouvelle souche de la bactérie?
Certainement une combinaison des deux. En fait, la souche en question, elle a éprouvé deux mutations différentes. Une qui la rendait hyper productrice de toxines. Et donc, avec des quantités très importantes de toxines produites, les patients développaient une diarrhée plus sévère. Et là, on imagine que ça pouvait se transmettre facilement dans nos hôpitaux. Mais c'est sûr que la crise a été particulièrement marquée ici au Québec par rapport à bien d'autres régions du monde. Ça témoignait également du fait qu'à l'époque, les infrastructures hospitalières étaient et sont toujours d'ailleurs passablement désuètes. Beaucoup de patients qui occupaient des chambres avec 2 ou 4 lits. Et il faut dire la vérité, des programmes de prévention des infections dans les hôpitaux du Québec qui n'étaient pas très priorisés par les administrations.
Et vous avez parlé de 2 mutations dans la bactérie. Une qui faisait qu'elle produisait beaucoup plus de toxines. L'autre, c'était quoi?
L'autre, c'est que cette deuxième mutation l'a rendu, cette souche-là, résistante à une classe d'antibiotiques qu'on appelle les quinolones. Et cette résistance-là a fait en sorte que la bactérie, dans un environnement, c'est-à-dire nos hôpitaux où il y avait une consommation absolument massive de ces antibiotiques, les quinolones, comme la bactérie, cette souche-là était résistante aux quinolones, il suffisait que les patients soient exposés aux quinolones et ça augmentait de façon importante le risque de développer le clostridium difficile. Donc, cette deuxième mutation, elle a également joué un rôle dans la dynamique de l'épidémie au Québec.
On parle d'une souche hyper virulente, c'est le bon mot, ça?
Oui, hyper virulente ou hyper productrice de toxines. En fait, elle produit des toxines à un niveau qui est environ 20 fois plus élevé que les souches habituelles.
Le docteur Jacques Pépin est infectiologue au Centre hospitalier de l'Université de Sherbrooke. Cela dit, les choses ont changé depuis cette crise. On a notamment mis en place des moyens systématiques de surveillance de la bactérie dans les hôpitaux, comme l'explique le docteur Charles Frenette. Il est directeur médical de la prévention des infections au Centre universitaire de santé McGill à Montréal et il est aussi le directeur du réseau québécois de surveillance des diarrhées associées au Clostridium difficile.
La première chose à dire et à constater, c'est qu'il y a eu une énorme amélioration dans l'incidence de Clostridium difficile dans les hôpitaux du Québec. En fait, après 5 ans, nous sommes à des taux historiquement bas et nous avons même présentement au Québec des taux qui sont inférieurs à ceux de l'Ontario grâce à toutes les mesures et à tout l'investissement qui a été fait en prévention par tous les intervenants, autant les hôpitaux que le ministère, la santé publique et tous les acteurs impliqués dans le système de santé.
En 2003-2004, il n'y avait pas de bon système de surveillance au niveau de la province. Il n'y en avait pas d'ailleurs ailleurs au Canada. Le Québec a été frappé en premier, donc c'est pour ça qu'on a dû faire au Québec ce réseau-là, peut-être avant les autres. Est-ce que les autres ont suivi?
Alors, on peut dire vraiment qu'au Québec, on a un des meilleurs systèmes au monde de surveillance des diarrhées associées au Clostridium difficile. Le reste du Canada nous a suivis et a vraiment copié à peu de choses près notre système. Les Américains ont adopté les mêmes définitions que nous et voudraient bien avoir un système aussi étendu que le nôtre. Les Français également ont mis en place un système de déclaration des éclosions, mais on reste la référence en la matière en termes de structure qui est vraiment mur à mur parce que tous les hôpitaux de soins aigus au Québec participent et déclarent leur cas à tous les mois. Et il y a une analyse qui est faite à tous les niveaux, local, régional, au niveau du ministère, à tous les mois pour identifier les problèmes rapidement.
Alors, comment ça se passe pratiquement la lutte contre cette bactérie nosocomiale qu'on appelle C. difficile? Est-ce qu'on lutte mieux aujourd'hui contre les infections nosocomiales qui se répandent dans les hôpitaux? Par exemple, contre le staphylocoque doré qui est lui aussi très répandu. Les explications de nouveau du docteur Charles Frenette.
Si, par exemple, je vous donne un exemple concret et pratique sur une unité de soins dans mon centre hospitalier, dans les 2 dernières semaines, j'ai 3 cas de Clostridium difficile. Cette unité-là est déclarée en éclosion. Alors, on va nettoyer toute l'unité à l'eau de Javel, à une concentration plus élevée que d'ordinaire, sortir les patients, laver tous les petits objets, les rails de lit, les portes, les robinets, les toilettes, de façon intensive, de façon systématique, en moins de 48 heures. Deuxièmement, chaque chambre va ravoir cette même désinfection à tous les congés, parce qu'il y a des patients qui peuvent être en incubation. Troisièmement, on va revoir l'utilisation des antibiotiques. Quatrièmement, on va mettre en place les mesures de prévention pour tout cas qui aurait une diarrhée, mettre les gants, les blouses et suivre l'évolution. Alors, immanquablement, il y a toujours quelques cas qui surviennent après la mise en place des mesures et on suit l'évolution. On contrôle, on arrête là, c'est beau. S'il y a encore des cas, malgré tout ça, on recommence. On refait une désinfection complète, on revoit l'utilisation des antibiotiques et on essaie de trouver une source que l'on peut soit mieux contrôlé, mieux nettoyé, etc.
Vous avez parlé de l'eau de Javel, ça fait un peu vieux jeu, ça fait, ça fait 19e siècle presque. Est-ce que la bonne vieille eau de Javel, c'est ce qu'il faut?
Oui, alors comme vous savez, le Clostridium a un problème particulier, c'est qu'il peut rester en état dormant sous forme de spore. La plupart des désinfectants utilisés dans les milieux hospitaliers, même à la maison, ne tuent pas les spores. Alors, c'est à ce moment-là qu'il faut utiliser l'eau de Javel, qui est un des seuls produits qui peut aller vraiment détruire les spores restants dans l'environnement. Alors, non seulement il faut utiliser l'eau de Javel, mais il faut aussi l'utiliser à une concentration relativement élevée, qui peut, d'une façon quotidienne, être corrosive et on ne peut pas vraiment utiliser régulièrement. Alors, quand on a un problème, on l'utilise et ensuite, on revient à nos désinfectants habituels.
En conclusion, le Dr Charles Frenette, bon, cette lutte contre les infections nosocomiales, hospitalières, bon, ça ne finira jamais. Mais est-ce que vous pensez que c'est plus difficile aujourd'hui, avec les années, il y a plus de bactéries qui ont acquis des résistances, etc. Est-ce que vous pensez que c'est plus difficile aujourd'hui qu'il y a 10 ans, 20 ans, 30 ans?
Ben, c'est plus difficile, pas nécessairement plus difficile. C'est clair que la population hospitalisée est plus à risque de nos jours qu'il y a 20 ans, 30 ans.
Pourquoi?
Essentiellement, les patients qui étaient bien, qui étaient peu à risque, maintenant, ne viennent plus à l'hôpital. Ils sont en chirurgie de jour, hôpital de jour, antibiothérapie ambulatoire. Et la population qui est hospitalisée maintenant de nos jours est beaucoup plus âgée, beaucoup plus malade, subit beaucoup plus de procédures. La médecine a fait des progrès énormes. Mais chacune de ces procédures-là est associée à un risque d'infection. Chaque opération a un risque d'infection. Chaque fois qu'on pose un cathéter, qu'on intube un patient, qu'on lui donne des antibiotiques, on expose le patient à un risque, à une conséquence. Alors, c'est dans ce sens-là beaucoup plus fréquent, beaucoup plus sévère. Par contre, depuis 20-30 ans, pour chacune de ces infections-là, on sait beaucoup plus ce qu'il faut faire. Et les mesures de prévention sont maintenant, pour une large part, connues. La mise en application est difficile, souvent dans un contexte hospitalier où les ressources sont limitées, mais le degré de connaissance dans la prévention de chacune des infections-là est évidemment toujours un peu en retard, mais progresse à un rythme fulgurant.
Le docteur Charles Frenette est directeur médical de la prévention des infections au Centre universitaire de santé McGill. Il est aussi le directeur du réseau québécois de surveillance des diarrhées associées au Clostridium difficile. La baie James, pays de démesure, de froid, de mouches l'été. Mais que savons-nous vraiment de cette région? Le géologue François Huot a décidé de rassembler les connaissances les plus récentes au sujet de la baie James, de son histoire géologique, de celle des peuples qui l'ont fréquenté, habité et exploité. Il s'est adjoint la plume de Jean Désy, médecin et auteur prolifique d'œuvres littéraires sur la nordicité. Son livre, publié aux productions FH, s'intitule « La baie James des uns et des autres, Eyu Ishtie. On y trouve de nombreux documents d'archives et des images du photographe Mathieu Dupuis. Sophie-André Blondin a invité François Huot à partager sa passion pour la baie James.
La première fois que j'étais à la baie James, c'était en 1993. En fait, j'ai été travailler à Chibougamau. Et puis, j'ai été un petit peu marqué quand je suis arrivé à Chibougamau le premier été. Parce que c'est comme un autre pays, en fait. On sent loin des grandes villes, mais en même temps, je trouvais que je me sentais bien. Puis avec les années, à force de travailler dans le Nord, j'ai vu que, moi, en tant que géologue, je travaille sur des campements d'exploration minière, on vit des événements, des anecdotes que les gens en ville n'ont pas l'occasion de vivre. Parce qu'on vit beaucoup dans des campements d'exploration minière, dans des tentes qu'on appelle des tentes prospecteurs. On vit en forêt, on cherche la minéralisation, du cuivre, de l'or, des choses comme ça. Et il m'est venu l'idée de faire un scénario d'un film ou d'une série télé que j'ai travaillé pendant quelques étés. Puis en 2005, à la fin 2005, j'ai contacté Francis Leclerc, qui est réalisateur, qui a fait Mémoire affective, et un été sans point ni coup sûr. Et il était intéressé par le projet, même s'il ne connaissait pas énormément le Nord comme tel.
Mais c'est de la fiction dans ce cas-là.
Oui, là, c'était de la fiction. Mais ce qui est arrivé, c'est que je me suis mis à fouiller en librairie, voir s'il y avait des ouvrages qui parlaient de la baie James, de la Gemésie comme telle. Et je me suis rendu compte que les derniers ouvrages qui parlaient vraiment de l'histoire de cette région-là dataient de 92. Donc, il s'était passé déjà 13 ans et beaucoup de choses sur le territoire. Et c'est là que j'ai commencé à écrire le texte en compagnie de l'auteur, co-auteur Jean Désy, qui est un écrivain aussi. Et je me suis dit, ben, tant qu'à tout ramasser cette information-là, on serait aussi bien de le publier. Et en même temps, ça sert à nourrir les scénaristes, là, maintenant Francis Leclerc et Guillaume Vigneault.
Parce qu'il y a toujours cette voie vers la fiction qui est ouverte.
Exact.
Mais entre-temps, il y a la voie du documentaire. Ouais. C'est un beau livre, là. C'est plein de photos, ce sont des textes, mais c'est énormément d'informations. Ouais, c'est très fouillé.
C'est ça, exact. C'est la partie concrétisée du projet pour l'instant.
Et justement, c'est fouillé dans l'histoire, c'est fouillé dans les gens, c'est fouillé dans les habitants de la baie James. Commençons par le titre, parce que, bon, la baie James, des uns et des autres, on veut bien comprendre, François Huot, que c'est votre baie James, parce que vous êtes, on va le dire, tombé en amour, peut-être, avec la région.
Oui.
Et le sous-titre « Iyu Ischi », ça nous dit que vous allez avoir une fenêtre, une préoccupation vers les premiers habitants humains de la baie James. Qu'est-ce que ça veut dire, « Iyu Ischi » ?
Ça veut dire « la terre des cris ». « Iyu » veut dire « cri », et le « Ischi », c'est le pays, en fait, la terre des cris. Et le « des uns et des autres » ici fait allusion aux deux peuples qui vivent sur ce territoire-là, donc les cris et les Québécois, là, les Jamaïsiens, qui vivent à peu près à part égal, il y a 15 000 individus de chaque côté. Mais c'est aussi, « des uns et des autres », une référence aux différentes économies qu'on retrouve sur ces territoires-là. Parce qu'en fait, la région est... C'est une multitude, une mosaïque de plein de territoires où on a l'industrie minière, la forêt, l'hydroélectricité et le côté aussi environnemental, écologiste avec les réserves, les aires protégées qui ont été faites. Donc, c'est comme une mosaïque de plein de facettes. Donc, c'est pour ça le « des uns et des autres ». Ça dépasse les peuples, en fait.
Et il y a de la place pour une mosaïque parce qu'on parle d'un territoire qui est très, très vaste.
350 000 km². C'est la plus grande municipalité au monde.
Si on regarde géologiquement, et vous êtes géologue, et quand les géologues parlent du temps et de l'histoire, ils parlent en temps géologique, et généralement, on sait qu'on va reculer très, très, très loin. Ouais. Ce que vous faites dans le livre, parce que finalement, les premiers habitants de la baie James dont vous parlez, ce sont les cyanobactéries.
Ouais.
Et là, ça fait quand même quelques millions d'années. Vous allez jusqu'à cette histoire-là.
Ouais. Ça l'a dessiné, puis c'est de là que viennent la majorité des richesses du territoire. Là. Le socle, le bouclier canadien, qui date de 2,7 milliards d'années, il a amené, en fait, ce qui s'est passé dans la croûte terrestre a amené les richesses au niveau des gisements miniers. Les différentes fractures du bouclier canadien ont permis à l'eau de se drainer dans des endroits bien focalisés pour dessiner les grandes rivières, les grands cours d'eau qu'on a aujourd'hui sur le territoire qui permettent aujourd'hui... Oui, d'être harnachés et sur le plan hydroélectrique, mais aussi qui ont permis aux Autochtones de se nourrir là, de ces rivières-là à travers les millénaires.
Vous avez parlé de l'histoire en millions d'années de ce bouclier canadien, de ce socle rocheux qui l'a rendu si riche. Riche en quoi?
Riche particulièrement en... si on prend la bande, parce que là, il faut sortir un petit peu de la baie James, parce que d'un point de vue géologique... La bande riche en métaux, en cuivre et en or qu'on retrouve à Chibougamau, par exemple, se poursuit vers l'ouest, vers Val-d'Or et Rouyn-Noranda, et même en Ontario. Donc, dans cette on appelle ça des ceintures de roches vertes, donc des roches très fertiles, on a justement, comme j'ai dit, cuivre, zinc, or en particulier. Il y a d'autres endroits où on va retrouver aussi de l'uranium. Donc, ça fait un débat pour l'instant. Mais il y a quand même, c'est un socle riche en uranium. Et à d'autres endroits aussi, il y a des roches qui vont être plus favorables à la présence de nickel, platine, palladium. Si on dépasse dans le Nunavik, par exemple, la mine Raglan qui est située quasiment à la pointe extrême nord du Québec. Donc, c'est un terrain encore très fertile et méconnu aussi.
Et il y a du diamant. Il y a un projet d'ailleurs très avancé, le projet de la mine Renard dans les monts Otiche qui veut miner pour le diamant.
Exact. C'est vrai, j'ai oublié de mentionner, mais il y a quand même des indices de diamants un peu partout sur le territoire et éventuellement, dans quelques années, il pourrait y avoir la première mine de diamants au Québec.
Parlons de la faune et de la flore. De très belles photos. On a envie de flatter les caribous.
Ouais.
C'est presque possible quand on est à la baie James?
Oui, c'est à partir du moment où on peut se cacher en arrière d'un arbre, une roche, puis des fois, on peut les surprendre. Ils s'arrêtent à quelques pieds de nous, puis ensuite, ils repartent. Et j'ai des amis qui m'ont raconté qu'ils en avaient déjà quasiment... Ils ont quasiment fait du cheval sur le dos... C'est une vision imagée des choses, mais...
Des histoires de pêche.
Ouais, mais ouais. Mais sérieusement, là, ils viennent très, très près de nous, puis même qu'ils peuvent, si on établit notre campement sur une passe migratoire, là, ça, je l'ai déjà vécu, pour être parti le matin, il n'y avait aucune trace de caribou. En revenant le soir, en hélicoptère, on s'est posé au campement, puis tout était piétiné partout. Là. Il y a juste les tentes qui restaient intactes. Il y avait passé des milliers de caribous pendant la journée.
Sans s'arrêter parce qu'il y avait un campement.
C'est ça, exact.
Outre le caribou, des prédateurs, plus au nord, l'ours polaire, il en reste.
Sur les côtes. Il y en a même parfois qui vont s'aventurer le long de la côte de la baie de James.
Le renard arctique est là aussi.
Oui, l'ours noir aussi.
Beaucoup?
Oui, beaucoup, beaucoup. Le loup. Bien entendu.
Qu'on entend des fois, oui.
Oui, oui. Les lagopèdes perdrix énormément. La pie aussi, le mésanger, là.
Et vous avez de très, très belles photos, entre autres, des traces laissées dans la neige par l'envol d'un lagopède. Ouais. C'est blanc sur blanc, c'est ton sur ton, mais ça dit tout, finalement, du mouvement du lagopède qui s'est envolé. Bon, la flore, quand on arrive dans ces territoires-là, en fait, c'est très varié. Vous avez parlé d'une courte pointe, et c'est un peu ça, mais ce qu'on identifie à la région de la baie James, c'est l'épinette noire et la mousse à caribou.
Le lichen.
Le lichen qui est là. Il n'y a plus que ça, mais ça, c'est très important aussi comme emblème.
Exact. L'épinette qui, surtout à ces temps-ci de l'année, qui est magnifique, recouverte de neige. L'été, ça peut paraître un peu austère comme arbre.
On dirait que du bois brûlé.
Oui, exact. Ouais. Mais l'hiver, c'est un tout autre décor. Ça vaut la peine de se rendre dans le nord pour aller voir ça l'été comme hiver. Mais j'apprécie profondément l'hiver. Mais on retrouve aussi, bien entendu, le sapin, l'épinette blanche. Dans les parties plus au sud, on va retrouver le bouleau, le tremble. Donc, une végétation assez diversifiée, mais plus on va dans le nord, plus on s'approche du Nunavik, là, c'est sûr que l'épinette devient de plus en plus petite et même très, très dispersée.
Et elles sont généralement... La végétation est assez petite à la baie James parce que les temps sont durs, les conditions sont difficiles, donc ça pousse moins vite.
Oui, exact, ça pousse moins vite. Et à peu près au 51e ou 52e parallèle, ce qui se trouve à être à peu près à mi-hauteur sur le territoire de la baie James, les arbres ne sont plus de nature commerciale parce que là, on a affaire à des épinettes. On pourrait faire quasiment des cure-dents avec. Là. C'est vraiment,
tout,
c'est vraiment, vraiment petit comme diamètre d'arbre et c'est dispersé en plus. Et j'aimerais aussi mentionner que lorsque les glaciers se sont retraités il y a 6000 ans, il faisait plus chaud qu'aujourd'hui. La forêt, donc les différentes strates forestières, étaient encore plus vers le nord qu'aujourd'hui. Même si on se dirige vers un réchauffement climatique, il faut penser qu'il y a 6000 ans, il faisait plus chaud.
Quand vous parlez d'exploitation forestière, bon, peut-être que l'épinette ne sert qu'à faire des cure-dents, ce qui enlève une des possibilités pour l'habitant humain là-bas. Mais l'homme, l'humain, a toujours été attiré par la baie James. Bon, il y a encore une grande présence de la communauté autochtone, une présence qui est établie, assumée et qui peut prospérer aussi. Est-ce que ça cohabite bien entre les différents humains qui sont en haut là-bas?
Il n'y a pas beaucoup de communication, je dirais. Les gens essaient, mais on dirait que même les millénaires de distance entre les deux peuples font que les gens se rencontrent souvent parce qu'ils se fréquentent, par exemple, à Chibougamau. Il y a beaucoup de cris des communautés autour qui sont dans le village, mais il n'y a pas beaucoup de discussions. Je pense qu'il y a des pas qui sont faits des deux côtés pour améliorer la relation. Mais c'est encore difficile, mais c'est quand même une relation amicale lorsqu'il y a une fréquentation, là. Mais il y a vraiment, les cris sont habituellement dans leur communauté. Et puis, les Québécois vivent dans leur ville. Et de temps en temps, nous, par exemple, en exploration minière, on a la chance d'avoir avec nous des cris qui viennent sur le campement. Ça, il y en a habituellement un ou deux qui viennent, puis viennent donner un coup de main, puis on apprend un peu de leur histoire, puis de la façon dont ils vivent. Mais il pourrait y avoir une nette amélioration au niveau des relations entre les deux, parce que c'est quand même les deux peuples qui habitent cette région-là. Les deux ont avantage à travailler ensemble.
Et qui devraient pouvoir profiter des avantages et des richesses que propose le territoire.
Exact.
C'est pas parce qu'on a manqué de temps, parce que ça fait des centaines d'années que les peuples se côtoient. Les premiers explorateurs, l'attrait du nord, des richesses du sous-sol, l'attrait de la vie, par exemple, peut-être un peu lointaine, c'est là depuis longtemps. Hudson, qui a donné son nom à la baie, était là il y a plusieurs centaines d'années.
Il y a 400 ans, cette année, en 1610. C'est vrai, mais ça... Pendant, je dirais, 350 ans, c'était surtout des relations commerciales. C'était la compagnie La Baie du Son qui était là, qui amenait des biens manufacturés pour les Autochtones. Et en échange, les Autochtones leur apportaient les pots. Donc, les deux, autant la compagnie La Baie du Son que les Autochtones, étaient essentiels l'un pour l'autre. Lorsque Hydro-Québec est arrivé dans les années 70 pour développer les barrages, Ce qu'il faut rappeler aussi, c'est qu'à cette époque-là, il faisait à peu près une cinquantaine d'années que ce territoire-là appartenait au Québec. Avant, c'était au Canada. Et le Québec ne s'était pas occupé des Autochtones comme tel parce qu'il ne pensait pas faire du développement dans le Nord. Mais lorsque Hydro-Québec a voulu développer les cris, on dit non, on a encore nos droits. Donc, c'est là qu'est venue la convention de la Baie-James et du Nord québécois. Mais il reste encore beaucoup de choses à faire.
Beaucoup de travail, bon, pour les gens qui habitent là-bas. Il y a encore cet attrait, on identifie ce grand territoire aux prospecteurs, on les voit. Puis on les voit dans les photos de votre livre aussi, François Huot, avec leur barbe, avec leurs habits un peu historiques, qui ont l'air de grelotter, mais d'avoir un plaisir fou à être loin et à vivre ce qu'on appelle la vie des premiers colons. Mm-hmm. Mais il y a encore cette faune humaine en haut-là.
Oui, encore. Elle est moins présente, par contre. Mais quand on arrive à Chibougamau, chaque fois que je rentre à Chibougamau, j'ai toujours l'impression d'une ville un peu western avec les voitures stationnées en diagonale, puis là, avec la façade des commerces. Puis nous, en tant que géologues, je travaille souvent dans le nord, la Baie-James et même au Nunavik. On vit encore, même si on a Internet, puis même si on a des hélicoptères, on s'en va pas là-bas en canot, mais on vit encore dans des temps de prospecteurs comme dans le temps. Comme il y a 50 ou 100 ans, avec notre poêle au mazout, on se fait débarquer en hydravion, avec notre frige d'air, congélateur. Et le pilote nous laisse sur le bord, puis on a une journée pour monter notre campement, puis petit à petit, le campement grossit, puis ça se passe de même il y a 50 ou 100 ans, puis ça se passe encore comme ça aujourd'hui.
Et encore aujourd'hui, est-ce qu'on peut s'allouer l'illusion, peut-être, la vérité, sait-on jamais, d'être le premier à fouler un certain sol, à ramasser une certaine roche, à boire l'eau d'un certain lac? Est-ce qu'on a un peu cette impression?
Oui, on a l'impression. Je ne suis pas sûr qu'on soit vraiment les premiers, mais parce que de temps en temps, on va trouver des traces. Des fois, on trouve même des objets qui ont été laissés il y a 50 ans par des premiers prospecteurs qui sont passés par là. Mais on a encore l'impression d'être le premier, surtout que je travaille dans cette région-là depuis 1993, là, à raison de 2-3 mois par année. J'ai jamais rencontré personne d'autre en forêt que les gens avec qui je travaille. C'est jamais arrivé, puis on est en marche des kilomètres là, dans un été.
Puis les rencontres fortuites sont rares.
Oui, c'est encore un territoire essentiellement vierge, en dehors, bien entendu, des endroits qui ont été aménagés par l'hydroélectricité ou coupés par les compagnies forestières. Là. Il reste que c'est un territoire encore très, très vierge.
Est-ce qu'on pourrait faire des découvertes géologiques?
Oui.
Vous êtes géologue?
Oui. Il s'en est fait il y a 4-5 ans, par exemple, dans le coin du réservoir Opinaka, une des plus belles découvertes d'or encore au Canada là, qui s'est faite. Puis dans les Montiches aussi, il y a encore de belles découvertes. La compagnie pour qui je travaille, qui travaillent beaucoup dans le secteur de Kanapisco, viennent faire des découvertes en or l'été passé, l'été dernier.
Et là, on sent le géologue minier qui parle, parce que découverte, ça veut dire minerai, ça veut dire potentiel exploration. Ouais. François Huot, je vous remercie de nous avoir donné envie de feuilleter ce voyage dans l'histoire et dans la géologie, dans la géographie, dans l'histoire humaine de la Baie-James, qui s'intitule « La Baie-James des uns et des autres », EU History. C'est aux productions FH, parce que c'est à compte d'auteur, François Huot.
Oui, exact.
Merci beaucoup de cette visite aux années-lumière.
Merci beaucoup.
Et voilà, c'est la fin de cette édition des Années-Lumière, une émission signée Dominique Lapointe avec la technique Michel Potvin. Les journalistes Sophie-André Blondin, Marie-France Bélanger et Chantal Srivastava, journaliste au site internet Louis-André Bertrand, chroniqueur Rachel Légère. C'est Yannick Villedieu qui vous parle. Bonne semaine à l'écoute de Radio-Canada. Rendez-vous dimanche prochain pour une autre édition des Années-Lumière. Au revoir.